Nous allons commencer. Je vais dire quelques mots, non pas bien sûr pour présenter Dan Sperber qui n'en a pas besoin, que pour rappeler les circonstances de cette conférence. C'est l'une des manifestations de l'hommage qui est rendu par le Collège de France, par l'École des hautes études en sciences sociales et par l'École pratique des hautes études, trois institutions dans lesquelles Claude Lévi-Strauss a mené sa carrière, hommage qui se déroule sur trois jours. La conférence d'aujourd'hui succède à un colloque qui s'est tenu hier et précède une deuxième conférence qui se tiendra demain à l'École des hautes études en sciences sociales dans le Grand Amphithéâtre et qui sera confiée à Daniel Fabre. Ce soir, Dan Sperber va nous parler d'un aspect de l'œuvre de Lévi-Strauss qu'il connaît bien. Il a, comme vous le savez sans doute, des rapports à la fois étroits et complexes avec l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Il est l'un des premiers à avoir consacré un ouvrage au structuralisme en anthropologie. En même temps, il donne crédit à Lévi-Strauss d'avoir très tôt introduit des questions de la cognition au cœur de l'analyse anthropologique, tout en se séparant de lui, comme on le sait bien, sur la définition et la nature même du symbolisme. Et le titre qu'il a donné à sa conférence aujourd'hui est « La nature humaine », indique déjà, je crois, quel va être le sujet de la conférence. Je pense qu'il va parler d'une grande absente, peut-être dans l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, mais en général, peut-être dans l'anthropologie. Donc, c'est avec un très grand plaisir que nous recevons ce soir Dan Sperber.
Merci, Philippe. Non, d'abord, la nature humaine, justement, n'est pas absente dans l'œuvre de Lévi-Strauss, elle est absente dans les commentaires des gens qui s'en réclament, ça c'est autre chose. D'abord, merci de m'avoir invité à faire cette conférence. Je suis désolé de n'avoir pas pu participer au colloque de hier où j'aurais bien aimé aller, où j'aurais retrouvé des gens qui fréquentaient le séminaire de Lévi-Strauss en même temps que moi il y a très longtemps, une quarantaine d'années. Mais bon, je vais aller de l'avant. Et pour commencer, je vais vous lire un texte qui est paru dans Le Monde sous la plume de Roger Poldroit le 29 janvier 1999. Lévi-Strauss n'avait que 90 ans. Et il y avait eu une petite cérémonie en son honneur et à l'occasion de la publication d'un numéro spécial à la revue Critique. Et donc, après quelques allocutions de différentes personnes, Claude Lévi-Strauss, je lis, prit la parole plusieurs minutes. Ses propos, tenus sans note, prononcés d'une voix mesurée et ferme, furent exemplaires de netteté lucide et d'émotion maîtrisée par l'intelligence. Il n'y avait ni caméra ni micro, personne n'a sténographié ses paroles, c'est donc une reconstitution de mémoire qu'on va lire. Fidèle à l'esprit, elle n'est pas nécessairement exacte dans sa lettre. On espère seulement que ces quelques lignes puissent conserver et transmettre l'impression de ceux qui étaient présents, simplement la grandeur. Claude Lévi-Strauss confia en substance. Montaigne dit que la vieillesse nous diminue chaque jour et nous entame de telle sorte que, quand la mort survient, elle n'emporte plus qu'un quart d'homme ou un demi-homme. Montaigne est mort à 59 ans, et je ne pouvais sans doute avoir idée de l'extrême vieillesse où je me trouve aujourd'hui. Dans ce grand âge, que je ne pensais pas atteindre, et qui constitue une des plus curieuses surprises de mon existence, j'ai le sentiment d'être comme un hologramme brisé. Cet hologramme ne possède plus son unité entière, et cependant, comme dans tout hologramme, chaque partie restante conserve une image et une représentation complète du tout. Ainsi, y a-t-il aujourd'hui pour moi un moi réel, qui n'est plus que le quart ou la moitié d'un homme, et un moi virtuel, qui conserve encore vive une idée du tout. Le moi virtuel dresse un projet de livre, commence à en organiser les chapitres et dit au moi réel, c'est à toi de continuer. Et le moi réel, qui ne peut plus, dit au moi virtuel, c'est ton affaire, c'est toi seul qui vois la totalité. Ma vie se déroule à présent dans ce dialogue très étrange. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je retrouve dans ce texte assez émouvant et sidérant même, cette qualité extraordinaire de l'expression de Lévi-Strauss et sa capacité qu'il a d'utiliser les métaphores de façon tout à fait originale, c'est alors que les métaphores servent la plupart du temps, quand elles sont bien utilisées, à exprimer tout de même une pensée qui reste trop vague, trop imprécise pour pouvoir s'exprimer simplement et littéralement, lui, au contraire, donne de la précision et de la clarté, une clarté frappante, acérée, par son usage des métaphores. Et c'est ce qu'il fait ici avec cette métaphore de l'hologramme brisé, à laquelle je reviendrai plus tard. Mais donc je voulais citer ce passage parce que je pense que tous ceux qui ont eu la chance de lire Lévi-Strauss, de l'entendre, de suivre ses séminaires, ont eu le sentiment, en effet, d'une chance d'avoir affaire à une espèce de qualité intellectuelle complètement exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on soit d'accord avec lui ou pas, on ne rencontre pas ce genre de non seulement de stature, mais d'originalité profonde autrement. Lévi-Strauss est d'ailleurs sans doute l'anthropologue le plus fameux de l'histoire de la discipline. Je ne suis pas absolument sûr, peut-être que c'est Margaret Mead qui est sur un tout autre registre, elle a aussi une renommée considérable, mais c'est probablement aussi Lévi-Strauss l'anthropologue le plus fameux. Et il est, de façon très évidente, en grande partie justement à cause de ses qualités d'écrivain, de ses qualités justement qui mettent ensemble l'aspect artistique, la créativité littéraire et la contribution scientifique. Et de même que, disons, c'est devenu banal de faire de la science, de faire de l'art avec non seulement les objets habituels, les pinceaux, les instruments de musique, etc., et on fait maintenant avec des déchets en tout genre, lui aura fait, construit une œuvre artistique très très originale avec de la science, mais sans la détourner, au contraire, en la poussant d'une certaine façon à son paroxysme. Sans se détourner un seul instant des objectifs scientifiques, il a réussi à construire une œuvre qui est une œuvre artistique tout à fait exceptionnelle, parce qu'elle est en effet sans pareil. Mais justement, c'est là, à mon avis, qu'on trouve les raisons de ce succès tout à fait exceptionnel qui fait que où que vous alliez dans le monde, dans une librairie, vous trouvez toujours les livres de Lévi-Strauss, qui ne sont pas des livres faciles pour la plupart, hormis Triste Tropique, qui d'ailleurs n'est pas si facile que ça, sur les rayons. À côté de cette célébrité, de cette réputation sans pareil qu'est celle de Lévi-Strauss, si on regarde son influence réelle sur l'anthropologie, il y a un hiatus. Je pense qu'il faut le reconnaître. Bien sûr qu'il a une influence considérable, mais elle n'est pas à la mesure de sa renommée. D'abord, il s'est finalement pas véritablement constitué une école d'anthropologie structurale qui aurait duré et qui aurait été dans la continuité de ce qu'il enseignait, de ce que manifestement il voyait comme l'avenir de la discipline. Ça ne s'est pas produit. Il y a peu de travaux qui se réclament de façon majeure de son œuvre. Et quant à l'influence diffuse, elle n'est pas si facile à mesurer, elle est évidemment présente. Mais si on regarde domaine par domaine, disons, prenons la parenté, qui était son premier domaine où il a publié, donc il avait à l'époque à peine 40 ans, les structures élémentaires de la parenté. Parfois, la parenté, pour les mauvaises ou bonnes ou mauvaises raisons, est largement sortie du champ de l'activité de la plupart des anthropologues, ou bien elle y occupe une place, non pas du tout dans le genre de thématique qui intéressait Lévi-Strauss, mais autour du problème du genre, des rapports hommes-femmes, etc., qui sont devenus beaucoup plus centraux dans cette étude que le problème des structures, précisément, de parenté, qui n'est plus, pour encore une fois, des bonnes ou mauvaises raisons, centrale à la discipline. Et même ceux qui ont continué à travailler là-dessus, dans l'ensemble, n'ont pas tenu grand compte, disons, de l'œuvre considérable de Lévi-Strauss, avec quelques exceptions notables, que nous connaissons. Je crois que Françoise Héritier a parlé ici hier, etc., par exemple. Mais ça reste vrai, disons, que l'impact du travail de Lévi-Strauss sur l'étude de la parenté en anthropologie n'est pas à la mesure d'une ambition qui pouvait paraître tout à fait légitime. Les mythes, domaine où il a consacré encore plus de temps, une œuvre considérable, ma foi, d'abord, ce n'est pas un sujet central dans la discipline non plus, ça a cessé de l'être, et ceux qui travaillent dessus sont parfois influencés par Lévi-Strauss, ceux qui ont travaillé sur les mythes grecs, par exemple, dans des domaines hors d'anthropologie, en histoire, l'ont été peut-être plus que beaucoup d'anthropologues ou de folkloristes, mais on n'a pas affaire à une anthropologie des mythes structurale inspirée par Lévi-Strauss et qui se serait développée de façon majeure depuis son œuvre. Et concernant un troisième aspect représenté dans ses livres sur le totémisme et la pensée sauvage, là, et le travail sur les systèmes de catégorisation à travers les cultures du monde s'est développé, a continué, et il emprunte assez peu, et probablement à tort d'ailleurs, à l'œuvre de Lévi-Strauss. Et curieusement, l'influence même de Lévi-Strauss sur ses élèves, sur une génération de gens qu'il a attirés à l'anthropologie et qui n'auraient pas, sans doute pas, qui auraient fait de la philosophie, plusieurs générations en France qui auraient fait de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire, mais qui ont été convaincus par lui, et je fais partie de cela, qu'il y avait des enjeux intellectuels majeurs en anthropologie, eh bien, ces élèves sont pour la totalité devenus de formidables ethnographes qui se sont consacrés à des études ethnographiques d'une qualité extraordinaire, qui ont remonté la discipline en France à un remarquable niveau, qui ont fait, pour prendre la tripartition que Lévi-Strauss faisait parfois entre ethnographie, ethnologie et anthropologie, qui pour certains d'entre eux se sont aventurés dans l'ethnologie, c'est-à-dire soit dans des considérations régionales au sens géographique, soit régionales au sens thématique, et des gens qui ont fait de l'anthropologie au sens de Lévi-Strauss parmi les élèves de Lévi-Strauss, très peu, disons les choses simplement. C'était au fond, et je l'ai ressenti quand je suivais le séminaire de Lévi-Strauss, donc il y a très longtemps, une quarantaine d'années, c'était comme si au fond, la théorie, c'est lui qui la faisait, et les autres pouvaient ajouter des illustrations, des exégèses, des notes en bas de page, mais il y avait quelque chose de quasiment d'outrecuidant à s'engager dans le travail théorique soi-même. Je l'ai ressenti parce que moi, je l'ai fait, et tout ça se passait de façon très amicale. Je regardais mes camarades, et j'étais encouragé par Lévi-Strauss lui-même, dois-je dire, très gentiment, mais mes camarades trouvaient ça, c'est pas ça qu'il faut faire. C'était vraiment, il y avait un côté un peu impudent à faire les choses ainsi. Et donc, si on réfléchit sur cet impact et sur le rôle et sur les idées, au fond, que Lévi-Strauss aura défendues et sur leur présence aujourd'hui et leur avenir, d'ailleurs, une première remarque que je voudrais faire, c'est que au fond, l'idée qui était un peu centrale, le thème, le drapeau, c'est-à-dire l'idée du structuralisme même, aura été à la fois une espèce de promesse et un obstacle. Le structuralisme, il n'en reste pas grand-chose. Je crois qu'il reste pas mal de choses de l'œuvre de Lévi-Strauss, mais le structuralisme, pas vraiment. En grande partie parce que la promesse, au fond, d'une nouvelle façon d'aborder le social avec une méthode, il insistait constamment sur le fait que c'était une méthode et pas une théorie. Cette promesse a gonflé, et pas par la faute de Lévi-Strauss, mais quand il y a eu tout le mouvement structuraliste, de façon extrêmement confuse et mené plus par la presse que par les universitaires ou les chercheurs, on a mis ensemble Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, etc., etc. Il y avait l'idée d'une espèce de transformation complète de la façon de penser, et les résultats n'ont certainement pas correspondu aux attentes qui avaient été suscitées. Et donc, en plus, il n'y avait même pas de moyens clairs, de direction claire pour utiliser cette méthode de telle façon à ce qu'elle donne les résultats escomptés. Et donc, l'enthousiasme est là-dessus assez vite retombé. Et je pense qu'une des raisons à ça, c'est que quand Lévi-Strauss parle de structuralisme, il l'emploie à nouveau comme une espèce de métaphore, ce ne serait pas le terme exact, mais comme une façon d'exprimer avec distance, comme il le faisait avec l'hologramme brisé, un style très personnel, un style intellectuel, un type de curiosité, un type de perspicacité, d'obstination, d'intelligence ayant une forme toute propre à lui, pour en parler, non pas à la première personne, mais précisément, l'objectivement, sous la forme d'une doctrine. Il y a dans le structuralisme de Lévi-Strauss beaucoup plus, ou quelque chose de plus particulier, de plus personnel que, disons, dans le structuralisme linguistique, ou que dans les autres emplois du terme. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est inimitable. Il le présente comme une espèce de méthode qui, au fond, serait à la portée de tout chercheur sérieux. Je pense qu'il y a une espèce de modestie sans doute sincère, mais erronée, et qui aura coûté à la méthode. De plus, le structuralisme dans d'autres branches, en linguistique en particulier, qui est la discipline où Lévi-Strauss a été le chercher, a tourné court. Il y a eu Noam Chomsky, il y a eu le développement de la grammaire générative, et l'intérêt, si je peux mettre une note personnelle, moi je me suis mis à faire de la linguistique sous l'influence de Lévi-Strauss, qui disait qu'il fallait en faire, donc j'ai lu Saussure. Et puis un jour, j'ai rencontré une étudiante d'anglais, qui est d'ailleurs d'anglais, qui est dans la salle aujourd'hui, et dont le professeur lui avait signalé l'œuvre de Chomsky. Et je me suis mis à lire Chomsky. Et bon, là, on se rendait compte qu'il y avait une nouvelle façon, remettant très radicalement en cause le programme structuraliste, de faire de la linguistique. Et aujourd'hui, il y a des Chomsky, à la fois ceux qui le suivent et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, mais toute la linguistique a été transformée. Et la linguistique structurale telle qu'elle se faisait, telle qu'elle inspirait Lévi-Strauss, n'existe pratiquement plus. Encore une fois, c'est vrai aussi bien des adversaires de la grammaire générative et de Chomsky que de ses partisans. Ils font une linguistique dont le programme, dont les concepts, dont les moyens, dont les méthodes sont très très profondément différents de ceux de la période structuraliste, et donc le structuralisme n'est plus d'actualité en linguistique, et pour d'autres raisons, à mon avis, ne l'est plus en anthropologie. Le structuralisme de Lévi-Strauss était non seulement une espèce de méthode comportant un certain nombre d'instruments plus ou moins formels qui devaient servir à aborder l'étude des phénomènes socioculturels. Il y avait quand même un contenu de plus là-dedans, qui était un structuralisme naturaliste. Lévi-Strauss est un naturaliste, de face, je vous donnerai une série de citations si vous en doutez. Il a été extrêmement constant dans son naturalisme, et je vais préciser de quoi il s'agit. Et on peut en effet avoir une conception du structuralisme, c'est pas absurde, comme un programme de recherche naturaliste. Mais l'image dominante du structuralisme, surtout à partir de la fin des années 60, justement, quand il s'agissait plus seulement de Jacobson, Lévi-Strauss, Benveniste et Dumézil, mais quand on a rajouté non seulement Barthes, qui était encore assez proche, mais Foucault, Derrida et d'autres, c'est l'image, justement, au contraire, d'un programme qui tourne le dos et qui rend caduque les sciences naturelles, ou en tout cas l'intérêt pour les sciences naturelles, qui permet d'aborder le domaine humain d'une façon complètement coupée, divorcée des sciences naturelles et sans regret, en quelque sorte. C'est une vision très, très différente de la vision lévi-straussienne. Donc le structuralisme de Lévi-Strauss, il est naturaliste, et c'est important. Et c'est important, mais c'est un aspect qui est généralement négligé, encore une fois, parce que l'éthos du structuralisme, dans toutes ces années, allait dans une direction opposée. Et ce que je vais dire maintenant, en préparant ce papier, c'est des choses qui, justement, ne sont pas évidentes, ne sont pas dites par tout le monde. Philippe lui-même suggérait que, quand j'allais parler du naturalisme, j'allais reprocher à Lévi-Strauss de ne pas en parler, alors qu'au contraire, je pense qu'il en parle beaucoup et dans l'ensemble assez bien. Mais donc c'est des remarques qui sont pas courantes. Mais je suis tombé sur un article récent aussi fait dans ces mois d'hommage à Lévi-Strauss par Gérard Lanclus, intitulé « Claude Lévi-Strauss aujourd'hui » est paru dans les études du CEFRES. Bon, ça mériterait d'être publié ailleurs. Et ce que j'ai à dire converge pas mal avec ce que dit Gérard Lanclus. Donc pour se donner un ensemble de citations qui montrent de quoi il s'agit. En 1952, se tient à Bloomington une conférence qui rassemble des anthropologues et des linguistes, à laquelle participent Jacobson et Lévi-Strauss, qui d'ailleurs écrivent les chapitres de conclusion. Le chapitre de Lévi-Strauss est un des chapitres republiés comme un des chapitres de l'anthropologie structurale en 1958, et Il disait donc en 52: pendant un ou deux siècles, les sciences humaines et sociales se sont résignées à contempler l'univers des sciences exactes et naturelles comme un paradis dont l'accès leur était à jamais interdit. Et voici qu'entre les deux mondes, la linguistique est parvenue à ouvrir une petite porte. Et cette petite porte, lui, il veut l'agrandir, et que l'anthropologie y passe aussi, c'est pas une constatation qui ferait d'un événement mineur à ses yeux, c'est au contraire un espoir fondamental. Donc d'abord, un intérêt pour les sciences naturelles, en particulier les sciences biologiques, mais aussi la géologie et d'autres, qui est constant dans son œuvre. Et ceux qui ont suivi son séminaire, il y avait des séances consacrées, je me souviens de séances consacrées à la cladistique, consacrées évidemment beaucoup à la psychologie animale. Je me souviens même de présentation des premiers travaux de sociobiologie qui, au départ, ont été présentés de façon assez favorable dans le cadre du séminaire de Lévi-Strauss, pour y être ensuite critiqué. Toujours à Bloomington, il soutient que culture et langue sont deux modalités d'une activité plus fondamentale, l'activité de l'esprit humain. Et quand il dit esprit humain, il parlera d'esprit humain, de nature humaine, comme le font beaucoup d'autres, et à juste titre, je pense, dans un sens quasiment identique, puisqu'au fond, ce qui est intéressant dans la nature humaine, c'est aussi soit la bipédalie ou l'opposition du pouce, mais c'est fondamentalement les aspects mentaux, cognitifs, l'esprit humain. C'est ça qui rend la nature humaine, si nature humaine il y a, d'un intérêt particulier. Culture et langue, donc, sont deux modalités d'une activité plus fondamentale, l'activité de l'esprit humain, dont une science à la fois très ancienne et très nouvelle, une anthropologie, entendue au sens le plus large, c'est-à-dire une connaissance de l'homme associant diverses... Pardon, ces pages sont collées. On va les décoller. Diverses méthodes et diverses disciplines, nous révélera un jour les secrets. Donc, l'ambition donc, d'une anthropologie qui a pour objet, au fond, de révéler les mécanismes de l'esprit humain, qui n'est certainement pas l'objectif classique de l'anthropologie tel que le conçoivent la plupart de ceux, la quasi-totalité de ceux qui la pratiquent. Dans La pensée sauvage, en 62, il préconise de réintégrer la culture dans la nature et finalement la vie dans l'ensemble de ses conditions physico-chimiques. Réintégrer la culture dans la nature et finalement la vie dans l'ensemble de ses conditions physico-chimiques. Dans un entretien avec Raymond Bellour en 67, à l'occasion de la publication du second volume des Mythologiques, il explique: comme dans tout ce que j'ai essayé de faire, il s'agit de comprendre comment fonctionne l'esprit des hommes. Dans le même entretien, il écrit: dans les structures élémentaires de la parenté, j'avais eu tendance à considérer que l'opposition nature-culture relevait de l'ordre des choses et exprimer une propriété du réel. J'ai pas mal évolué depuis, sous l'influence des progrès de la psychologie animale et de la tendance à faire intervenir dans les sciences de la nature des notions d'ordre culturel, par exemple celle d'information génétique en biologie ou la théorie des jeux en physique. Aujourd'hui, l'opposition nature-culture me semble moins refléter une propriété du réel qu'une antinomie de l'esprit humain. L'opposition n'est pas objective, ce sont les hommes qui ont besoin de la formuler. J'ai googlé, bien sûr, Lévi-Strauss, nature humaine, pour préparer ça. Il y a pas mal d'entrées. C'est assez intéressant. La plupart essayent, au fond, de mettre de l'eau dans le vin naturaliste de Lévi-Strauss. Ils disent, oui, il dit ça, mais en même temps, il insiste sur la variété culturelle, il est quand même relativiste, etc. Pratiquement aucune ne prend ce qu'il dit tel qu'il le dit. C'est-à-dire avec l'expression d'un naturalisme très, très, très radical, très simple. Dans le cru et le cuit, et excusez-moi, pour continuer sur les entrées de Google, justement, pas mal d'entre elles s'appuient sur l'opposition nature-culture dans les structures élémentaires de la parenté, ou quand il explique que la règle universelle de l'inceste fait à la fois la transition entre nature et culture, une idée intéressante mais qui n'est pas reprise par la suite, précisément parce que, comme il l'a dit, il a changé d'avis entre-temps, il est naturaliste complètement. C'est-à-dire l'opposition, pour dire les choses en autres termes, c'est des termes qu'il n'emploie pas lui, la culture fait partie de la nature, la culture est naturelle comme tout le reste. Dans Le cru et le cuit, en 71, il assigne comme but dernier à l'anthropologie de contribuer à une meilleure connaissance de la pensée objectivée de ses mécanismes. Dans La potière jalouse, en 85, il termine en insistant sur les mécanismes auxquels est asservi l'exercice de la pensée. C'est ça l'objet de l'anthropologie. Dans De près et de loin, en 88, tout en se dissociant justement du naturalisme qu'il appelle primaire et simpliste de la sociobiologie, il évoque un rapprochement possible entre sciences de la nature et sciences de la culture, qui s'opère entre ce qui est de plus élémentaire, de plus fondamental dans les mécanismes de la vie et ce qui est de plus complexe dans les phénomènes humains, etc. C'est constant. Je veux dire, le naturalisme de Lévi-Strauss, ses invocations de la nature humaine, de l'esprit humain, sont présentes dans son œuvre de façon constante. Est-ce que ça a suscité beaucoup d'intérêt ou de commentaires chez ses élèves, chez ses disciples, etc. ? Non. En fait, c'est comme s'il y avait eu un aspect un peu gênant, inconvenant, une espèce de gaffe qu'il faisait de façon répétée ou un tic de langage, et que la façon polie de réagir, c'était de ne pas faire attention. Et je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'au contraire, qu'il avait raison dans son naturalisme et que c'est une direction de recherche ou un type d'intérêt qui mérite tout à fait d'être poursuivi. Mais évidemment, tous ceux qui ont été formés aux sciences sociales dans les décennies qui viennent de passer, ça continue encore une grande part aujourd'hui, et j'ai encore une fois cet petit voyage sur Google le montrait bien, le slogan « Il n'y a pas de nature humaine », une espèce d'évidence dans les sciences sociales. Et s'il n'y a pas de nature humaine, évidemment, ce que dit Lévi-Strauss là est étrange, et si on veut l'aimer, il vaut mieux oublier qu'il l'a dit. Ces références à la nature humaine, encore une fois, généralement suscitent le silence, ne sont pas mentionnées, ne sont pas discutées, ne sont pas reprises chez les commentateurs de Lévi-Strauss, sauf ceux qui font un travail systématique, qui écrivent des livres sur lui, bien sûr, qui n'ont pas pu l'ignorer, ou bien parfois sont directement critiqués. Par exemple, dans le livre « Qu'est-ce que le structuralisme ?», paru en 68 et où j'avais contribué le chapitre sur l'anthropologie, François Val, qui avait dirigé l'ouvrage, écrivait, mettait en garde. Il disait « Le structuralisme, disait-il, est la première accession d'un certain ordre de fait à l'élaboration formelle rationnelle. Et l'on saisit du même coup ce qui, à chaque moment, la menace, un retour au naturalisme. » Et il disait ça en visant à la fois Lévi-Strauss et moi, ce que je trouve très flatteur. Mais c'était la menace, c'était au fond n'avoir pas compris. Être naturaliste, c'était n'avoir pas compris ce qu'il y avait d'important, de beau et de nouveau dans le structuralisme. De même, disons qu'un certain nombre de freudiens traitent le naturalisme, le biologisme de Freud, qui est constant et manifeste, comme au fond un aveuglement de Freud sur sa propre œuvre, comme si au fond Freud n'avait pas vraiment bien compris Lacan. En fait, si on essaie de se placer historiquement au moment où Lévi-Strauss développe sa conception générale, après la Seconde Guerre mondiale, quand il est à New York, justement, avec Jacobson, à la New School, et tout, et tout. Et c'est un moment d'effervescence intellectuelle particulier, où un certain nombre d'idées et d'instruments nouveaux, plein de promesses liées à la théorie de l'information, à la cybernétique, à la théorie des jeux, dont certains, à l'apparition des ordinateurs, dont certains ont été développés de façon très systématique pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de leur application militaire, aussi un moment où d'ailleurs la neurologie commence à faire des progrès qui s'accéléreront beaucoup plus par la suite. Et donc, il y a une espèce d'espoir assez scientiste, si vous l'appelez ça comme ça, d'une nouvelle unification de l'étude des objets des sciences humaines avec au moyen de ces instruments nouveaux, en grande partie mathématiques. Et donc, cette conception-là est une conception qui associe en effet un aspect formel, formalisme avec une conception inscrite dans les sciences et naturalistes du programme. Et ce qu'il y a de particulier chez Lévi-Strauss, qui est manifestement influencé par ce climat intellectuel, à juste titre, c'est vraiment ce qui se passe d'intéressant à l'époque, c'est qu'il voit la réalisation de ce genre d'ambition dans son domaine de l'anthropologie à travers l'adoption du structuralisme en particulier dans la formulation qu'il trouve chez Jacobson, qui lui-même est tout à fait intéressé par ces développements formels de l'époque. Or, ces développements formels de l'époque ont eu au fond deux postérités, plus que deux, mais deux qui nous intéressent ici. D'une part, un développement de systèmes formels, de modélisation de plus en plus intéressants et élaborés, qu'on pense à la théorie des catastrophes, aux théories de la complexité, etc. Toute une série d'instruments de modélisation de plus en plus divers, intéressants, puissants, etc., qui ont pas mal modifié le panorama, en effet, dans les sciences sociales, dans les sciences humaines et dans les sciences de la nature, d'une part, et d'autre part, et les deux choses sont liées, un autre ensemble de disciplines, un autre métaprogramme scientifique, qui sont les sciences cognitives, qui émergent, qui commencent à émerger dans les années 50, et qui est plus focalisé empiriquement que ce développement de modèles formels, et dont la particularité est de reprendre au fond des thèmes de la philosophie de l'esprit, voire de la psychologie d'avant le behaviorisme, donc d'avant le début du XXe siècle, c'est-à-dire de reprendre l'analyse et l'étude des mécanismes de la cognition, de la perception, mais aussi de la pensée, d'une façon qui n'était pas concevable auparavant, puisque cette fois-ci, précisément grâce au développement formel, en simplifiant beaucoup les choses, on sait comment un système matériel, une machine, peut traiter de l'information, ou en disant les choses beaucoup plus brutalement et de façon plus contestable, mais ça conviendra pour ici, comment on commence à comprendre comment de la matière peut penser. Donc les sciences cognitives développent une psychologie qui est naturaliste, qui est matérialiste. Ou quand une recherche est faite de façon conforme à l'esprit fondamental des sciences cognitives, lorsqu'on fait des hypothèses sur des mécanismes mentaux, on doit donner une espèce de preuve de possibilité, montrer que le mécanisme qu'on envisage est matériellement réalisable, qu'un système matériel peut produire le type de traitement de l'information, de pensée, de perception, de formation d'intention, de contrôle moteur, etc., que l'on postule, et on ouvre la question de savoir comment est-ce que cette possibilité matérielle est en pratique réalisée dans l'organisme, et plus précisément dans le cerveau, dans le système nerveux central, question à laquelle le développement plus récent maintenant des neurosciences permet tous les jours d'apporter plus d'éléments de réponse. Donc on s'est développé un programme qui a pour objet de traiter des mécanismes de la pensée, expression de Lévi-Strauss que j'ai cité à plusieurs reprises, et qui s'appuie sur, au fond, un ensemble d'idées qui inspirait Lévi-Strauss lui-même dans ces années-là, mais qui n'a pas particulièrement partie liée avec, par exemple, la linguistique structurale ou avec le structuralisme, qui, en fait, a parmi ses fondateurs ce mouvement de cette révolution cognitive, précisément le linguiste Noam Chomsky. Or, Lévi-Strauss ne s'intéresse pas à ces développements-là. Ça démarre en effet dans le courant des années 50. Certains anthropologues s'y intéressent, et Lévi-Strauss s'intéresse à ces anthropologues-là, ceux qu'on appelait de l'ethnoscience, qu'on appellera plus tard l'anthropologie cognitive. Mais les psychologues qui travaillent là-dessus, les neurologues qui travaillent là-dessus, ne sont pas dans son domaine d'intérêt, et ils s'intéressent peu à la psychologie de son temps, si ce n'est à celle de quelqu'un qui se réclame aussi du structuralisme, le grand psychologue Piaget, mais qui est le fondateur de la psychologie du développement contemporaine, mais qui en même temps, à des tas d'égards, et je n'ai pas le temps de développer, est précognitif dans sa façon de voir les choses, précisément envisage des mécanismes sans s'intéresser à leur possibilité de réalisation matérielle. La psychologie donc qu'envisage Lévi-Strauss, les mécanismes mentaux, les mécanismes de l'esprit humain auxquels il s'intéresse, il les conçoit comme des mécanismes très généraux, très généralistes. Le détail des mécanismes, l'idée qu'au fond, ils peuvent comporter une complexité, ils doivent comporter une complexité de mécanismes, de sous-mécanismes, etc., qui jouent un rôle dans chacune des fonctions complexes de la vie mentale, au fond, ça ne l'intéresse pas. Son esprit humain, c'est un esprit qui a une espèce de simplicité cristalline, qui a des grandes dispositions, classifications binaires, à certains types d'organisations, etc., etc., et dont il essaye de montrer que ces propriétés très générales sont manifestes, se manifestent et contribuent à expliquer des manifestations culturelles comme les structures de parenté, comme les mythes, etc. Il va au-delà de la doctrine qui est commune à la quasi-totalité des anthropologues, qui est celle de l'unité psychique de l'humanité que définissait Tal, et qui, quand les anthropologues adhèrent à cette idée, ils s'opposent, à juste titre, à des idées racistes. Il n'y a pas de différence dans les capacités cognitives que les êtres humains apportent à la naissance dans l'acquisition de leurs compétences culturelles. Et donc les différences entre cultures ne sont pas à chercher dans les différences naturelles entre les groupes humains. Il y a une unité de l'espèce. Mais une fois qu'on a dit ça, pour la plupart des anthropologues, l'affaire est close. Il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à regarder du côté des structures mentales. Pour Lévi-Strauss, si. Il s'intéresse à l'esprit humain, mais il en a une conception attirante, précisément si on est attiré par des modèles formels simples, mais sans se soucier trop de leur plausibilité d'un point de vue précisément de la psychologie cognitive, de l'autre discipline, parce qu'après tout, les mécanismes de la pensée, les mécanismes de l'esprit humain, il y a une, certes, l'anthropologie peut se déclarer intéressée, voire compétente, mais évidemment, la psychologie, à ce moment-là, devient la partenaire obligée de ce genre d'études. Donc, d'une certaine façon, un développement qui aurait été possible, qui aurait au fond tenu à... Si Lévi-Strauss était intéressé au développement émergent des sciences cognitives, si ses interlocuteurs avaient été, je ne sais pas, George Miller plutôt que Roman Jakobson, peut-être que l'histoire de notre discipline aurait suivi un cours quelque peu différent. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, on se retrouve avec une œuvre qui soutient que l'objet propre de l'anthropologie, c'est la nature humaine, et ce qu'elle a de plus spécifique, c'est-à-dire l'esprit humain, qui soutient, et pour ma part, je suis en profondément d'accord, que cet esprit humain peut et doit s'étudier à travers ses manifestations dans les phénomènes sociaux et culturels qui sont sous-tendus, évidemment, par les capacités, les dispositions mentales humaines, mais qui, en même temps, reste un petit peu sur le seuil de cette terre promise, encore une fois, du point de vue de ce programme psychologique particulier. Comment, si aujourd'hui, devant la lumière de ce qui a pu se passer dans le développement des sciences cognitives, dans d'autres disciplines concernées, en biologie aussi, qui est bien sûr partie prenante, si on repense à ces notions comme la nature humaine, l'esprit humain et le rôle dans la culture, que voyons-nous? Où en sommes-nous? Eh bien, d'abord, je serais tenté de dire, en prenant un point de vue vraiment naturaliste, il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine, mais pas au sens où c'est généralement entendu dans les sciences, dans les sciences sociales. C'est-à-dire qui accorderait volontiers qu'il peut y avoir une nature canine, une nature chevaline et une nature de la fourmi, mais non. Les êtres humains, eux, n'ont pas de nature, se différencient des autres espèces animales par cette espèce de libération qu'ils auraient par rapport à ce qui serait une condition naturelle, qui serait transcendée en quelque sorte par la culture. Non, il n'y a pas de nature humaine dans un autre sens, au sens où simplement que l'idée même de nature et l'idée d'une essence propre aux espèces, c'est au mieux un raccourci. On peut l'utiliser comme tel, je pense que Lévi-Strauss l'utilise comme tel, il peut m'arriver de l'utiliser comme tel. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? Une espèce animale particulière est caractérisée par un pool de gènes, un génome dont la composition ou les fréquences des allèles évoluent dans le temps. Il n'y a pas un moment pile auquel commence une espèce et auquel elle finit, sinon pour des raisons de commodité classificatoire. Il n'y a pas une unité totale du génome entre tous les animaux, tous les organismes qui relèvent de la même espèce. Et ce qui est intéressant, qui est la façon aujourd'hui dominante, disons, d'envisager précisément une notion comme celle d'espèce, etc., c'est une conception en termes de population de gènes en l'occurrence, et de population d'organismes. Et donc on n'a pas affaire à une naissance à une nature humaine ou à une nature canine, etc., etc. On a affaire à des interactions complexes entre des gènes qui ont des variantes. Dont la fréquence relative évolue dans le temps, et c'est ça l'objet véritable. C'est le phénomène au niveau des populations qui est intéressant, plutôt que cette notion plus abstraite ou plus essentialiste, précisément, d'une essence humaine ou d'une nature humaine. Enfin, c'est une nuance qui n'est pas sans importance, mais qui ne nous éloigne pas radicalement du propos de Lévi-Strauss. Mais enfin, il y a un sens où, en effet, de toute façon, l'idée de nature humaine n'est pas, d'un point de vue biologique, une idée si acceptable que ça. Donc la notion au fond, en la modernisant, on est amené, en tout cas, je pense, à rejeter même cette terminologie ou à ne l'utiliser qu'à des fins, disons, didactiques. S'agissant de l'esprit humain, encore une fois, ce qui est intéressant dans la nature humaine, c'est ce qui fait que les êtres humains, précisément, ont un collège de France et ils font des conférences, enfin, font des choses qu'aucune autre espèce ne fait. Ce sont, pour commencer, avant tout, leur capacité cognitive, c'est leur esprit. S'agissant de l'esprit humain, de même que la plupart des anthropologues sont réticents à concéder ou accepter qu'il y ait une nature humaine, et pas pour les bonnes raisons biologiques que j'évoquais, mais pour des raisons sociologiques, qui sont d'ailleurs intéressantes, qui ne sont pas du tout indéfendables. De même, il y a une réticence ou un refus de parler de l'esprit humain de façon en général. Qu'en est-il ? Il me semble que quand on parle de l'esprit humain, il y a une espèce d'ambiguïté systématique qui rend le débat sur l'existence même ou l'intérêt même d'une notion d'esprit humain quelque peu stérile. Parce que, ou bien on parle de l'esprit humain à la naissance, c'est-à-dire de l'ensemble des capacités mentales que le nouveau-né apporte à la tâche de se développer cognitivement, d'acquérir les compétences, les savoirs, etc., qui en font d'abord un enfant compétent comme enfant, puis un adulte compétent comme adulte. Et cet esprit-là, cet ensemble de capacités d'apprentissage, fondamentalement, oui, il est justement, si on accepte l'idée de l'unité psychique de l'humanité, l'idée, encore une fois, qui est à la base de toute anthropologie non raciste, eh bien, cet équipement-là, c'est un esprit humain qui est commun à tous les humains. C'est ce qui caractérise fondamentalement notre humanité au sens de notre capacité précisément à devenir ce que nous sommes. Donc, il y a un esprit humain en ce sens-là. Si on veut parler de l'esprit humain au sens des esprits, là, je ne sais pas combien nous sommes, quelques dizaines ou une centaine, ou je ne sais pas quoi. Ben, il y a autant d'esprits humains ici qu'il y a de personnes, au moins. Il peut y avoir des personnalités doubles ou triples. L'esprit humain, au sens premier, au sens d'un ensemble de capacités d'acquisition, d'apprentissage, etc., d'un potentiel de développement cognitif, précisément, se réalise en chacun de façon différente, à partir des expériences de chacun, qui sont à chaque fois propres, il n'y a pas deux personnes qui ont exactement la même expérience, se développent en partie et de façon très importante en fonction du contexte culturel dans lequel ils se développent, qui font que les esprits des membres d'un même groupe culturel ont un grand nombre de points communs de ce fait, mais restent néanmoins chacun différent l'un de l'autre. Donc il y a un autre sens où il n'y a pas d'esprit humain. Il n'y a pas d'autre, pour dire les choses entre termes, il n'y a pas d'autre espèce animale où les capacités, l'esprit, là, l'ensemble des capacités mentales, etc., se développe et diverge tant d'un individu à l'autre que dans le cas humain, il y a... c'est simplement son commune mesure. Et une bonne part des débats qu'il peut y avoir sur la pertinence même d'une notion de l'esprit humain vient du fait que cette distinction n'est pas clairement posée. D'abord, encore une fois, l'esprit humain comme espèce d'abstraction n'est pas tellement intéressante. Si on se demande si les capacités cognitives de tous les humains à la naissance constituent un espèce de système commun à l'espèce, avec peut-être des variations, mais qui n'ont rien qui sont pratiquement sans force explicative, si on prend cette hypothèse-là, il y a des bonnes raisons de la retenir, et il n'y a aucune raison de l'étendre aux esprits humains au pluriel, matures, qui, eux, diffèrent profondément. Mais cet esprit humain, donc au sens de l'esprit humain natif, de ce que l'enfant amène à la tâche d'acquisition et de développement cognitif, est-il intéressant, est-il riche, est-il induit-il dispositions à traiter l'expérience d'une façon plutôt que d'une autre, ou bien est-ce, selon dans une forme peut-être plus sophistiquée, quelque chose d'indéfiniment malléable, même si aujourd'hui l'image du morceau de glaise ou de la page blanche a perdu beaucoup de son attrait. Bon, ça, c'est la question que je ne développerai pas ici, mais évidemment, l'hypothèse qui domine sous des formes diverses dans les sciences cognitives aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et beaucoup plus intéressant que ça. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des dispositions, des biais, des capacités, dans l'aptitude à l'apprentissage et au développement, qui font que la constitution d'un esprit humain adulte et mature n'est pas une espèce d'empilement d'influences externes, mais est une construction qui est, à certains égards, guidée de l'intérieur. Il y a d'autres égards, bien sûr, guidée de l'extérieur. Il y a un double pilotage, un double guidage interne et externe qui rend les choses intéressantes. Lévi-Strauss lui-même, dans sa conception de l'esprit humain, encore une fois, le voyait comme quelque chose de... il ne cherchait pas des mécanismes, il y avait une espèce de un grand mécanisme général avec quelques grandes propriétés. Mais même cette vision, aujourd'hui, aux yeux des sciences cognitives simplistes de l'esprit humain, c'était quand même précisément dans l'esprit humain qu'il était important de connaître et dont il était important de connaître les mécanismes pour comprendre précisément quel type de développement social et culturel était possible, probable, pour contribuer donc à expliquer aussi la diversité culturelle elle-même. Si on donc de ce point de vue-là, Lévi-Strauss, si on le contraste à la conception dominante de l'anthropologie, encore une fois, à nous mener au seuil de la Terre promise, cette Terre promise des sciences cognitives, que certains d'entre vous peuvent l'entrevoir non pas comme une Terre promise, mais comme Sodome et Gomorre, nous mener donc au seuil de la Terre promise sans véritablement s'y engager. Il posait le problème et il ne proposait que des suggestions extrêmement générales, mais enfin par rapport à une anthropologie qui ne voyait même pas le problème, voire qui niait son existence, il avait un côté à cet égard de précurseur. Et précisément sur ces rapports entre l'organisation mentale, les mécanismes de la pensée, les mécanismes de l'esprit humain qui intéressent Lévi-Strauss et les phénomènes culturels. Comment est-ce qu'on peut concevoir ce rapport ? Quel est le rapport, pour dire les choses autrement, entre ce mécanisme, cet ensemble de mécanismes que l'enfant apporte à la tâche du développement et de l'apprentissage et les phénomènes culturels, les formes culturelles qui, après tout, ne peuvent exister, se maintenir et se transmettre que précisément parce qu'elles vont être acquises par les enfants au cours du développement cognitif. Et là, il y a deux façons de voir les choses et, au fond, les deux sont, d'une certaine façon, présentes chez Lévi-Strauss. Et l'une me paraît peu satisfaisante et l'autre, au contraire, très satisfaisante. Une première conception, c'est une conception où, au fond, on voit la culture comme une espèce de projection de l'esprit, justement. On a, au niveau d'une société, la projection de propriétés mentales individuelles. On retrouvera dans les structures sociales et culturelles un ensemble de propriétés structurales qui sont celles de l'esprit humain, tel qu'il est réalisé dans chaque individu et qui, en quelque sorte, seront été projetées à l'échelle sociale. C'est une vision, finalement, assez de réductionnisme, un réductionnisme, dans le cas de Lévi-Strauss, à l'organisation, disons, plus cognitive ou plus intellectuelle de l'esprit humain, et dont il existe des versions dans certaines applications, disons, par exemple, une conception freudienne au phénomène culturel. On a un réductionnisme à l'organisation plus affective, émotionnelle et conflictuelle de l'esprit humain qui, à nouveau, est projetée sur la dimension sociale. Il y a une autre façon de voir les choses qui est une façon populationniste. Tout à l'heure, je vous parlais de la nature humaine, au fond, c'est une notion qui est devenue un peu obsolète en biologie, précisément parce qu'on est dans une conception non pas essentialiste, mais populationniste. On n'a pas des catégories d'organismes ou d'êtres si bien définis, on a des populations de phénomènes qu'on peut regrouper, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre la dynamique de ces populations, plutôt que de les classer, et le classement est toujours à partir de la dynamique, doit être fondé sur la dynamique des populations elles-mêmes. Ça reste vrai si on considère les phénomènes culturels. Et si on les traite comme des phénomènes précisément qui existent non pas à l'échelle de l'individu ou de son esprit individuel, et encore moins comme des simples projections de l'esprit individuel sur le collectif, mais comme des phénomènes qui émergent et existent à un niveau des populations. Cette façon de penser le culturel en termes de phénomènes, de population de phénomènes, a une histoire, en anthropologie aussi. Au fond, le diffusionnisme qui était intellectuellement assez médiocre, il faut bien le dire, comme mouvement, était d'envisager les choses de cette façon-là. La sociologie de Tarde aussi, de façon moins médiocre à mes yeux. Et de nos jours, un certain nombre de gens venant de la biologie ont proposé des modèles de ce genre, le plus connu étant la mémétique, l'idée de Richard Dawkins, l'idée qu'il y a des mèmes, des espèces d'éléments de culture qui existent comme des populations de mèmes, comme des virus mentaux ou comportementaux qui envahiraient des populations et auraient plus ou moins de succès. C'est une conception populationniste des faits culturels qui sont vus au fond comme des éléments de culture en compétition les uns avec les autres, comme peuvent l'être des gènes ayant des capacités à se répliquer des succès reproductifs différents, et on va expliquer ainsi l'évolution culturelle. C'est une modélisation que pour ma part, j'ai critiqué depuis longtemps. Cela dit, c'est absolument pas la seule façon populationniste de concevoir les phénomènes culturels. Et on peut en particulier chez Lévi-Strauss même trouver une autre façon de voir les choses. Si on regarde en particulier la conception qu'il propose des mythes, il y a deux modèles des mythes qui coexistent dans son œuvre et qui, à mon avis, ne sont pas si compatibles l'un avec l'autre. D'une part, il parle des mythes qu'il analyse à travers les quatre volumes des mythologiques comme d'un langage. Il semble décrire son œuvre comme au fond la recherche d'une grammaire de ce langage. Et c'est une drôle de. Cette métaphore-là ne m'enthousiasme pas. Alors, c'est un langage que personne ne parle, que Lévi-Strauss est probablement le seul à avoir compris. C'est une espèce de phénomène, au fond, qui devrait relever de la psychologie individuelle ou interindividuelle et qui est projeté non seulement à l'échelle d'une société, mais d'un ensemble de sociétés habitant de continents. Je ne développe pas. Il y a une autre vision pour expliquer les propriétés structurales des mythes, ces régularités qu'il trouve, les transformations qu'il observe d'un groupe à l'autre, les mêmes thèmes étant repris avec des transformations typiques, etc. Et cette fois-ci, il y a une conception populationniste, c'est-à-dire ce qui se passe, il décrit, et je suis désolé, je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque à la fin de l'Homme nu en particulier, il y a un passage tout à fait intéressant où il décrit les mythes comme résultant de l'usure de la mémoire individuelle lorsqu'elle est telle qu'elle agit à travers des phénomènes de transmission répétés, où toutes les variations individuelles qui peuvent se trouver et qui se retrouvent à chaque fois qu'un mythe est raconté, en quelque sorte s'éliminent les unes les autres au profit d'une structure fondamentale, mais qui, encore une fois, émerge dans le processus de la transmission. Cette structure fondamentale, ce n'est pas la structure de l'esprit, d'un esprit humain abstrait ou individuel, c'est une structure qui est propre aux conditions de la diffusion même des mythes, de leur transmission, et les facteurs qui affectent cette transmission sont à la fois les facteurs de la psychologie individuelle, en particulier la mémoire, qui va sélectionner, favoriser certaines organisations narratives aux dépens d'autres, et les conditions de leur transmission. Il suffit de penser à ce qui se passe lorsque on passe de la transmission orale à la transmission écrite. Et là, on a affaire à une espèce d'épidémiologie des mythes qui me paraît beaucoup plus prometteuse. et une conception populationnelle, originale, et qui précisément dont l'intérêt est d'articuler les facteurs psychologiques qui intéressent Lévi-Strauss, l'organisation de l'esprit humain, en particulier l'organisation de la mémoire, avec des facteurs, disons, plus sociologiques, sociaux et écologiques qui ont à voir avec l'environnement social et naturel, d'ailleurs, dans lequel s'effectuent ces transmissions. Les facteurs causaux qui expliquent la façon dont les mythes tendent à la fois à converger et diverger autour de certaines structures que toute l'œuvre de Lévi-Strauss met en évidence, les facteurs qui expliquent donc ces propriétés structurales étant à chercher et du côté des mécanismes psychologiques et du côté des mécanismes socio-écologiques pris à l'échelle des populations. Je vais aller rapidement vers une conclusion. Toujours un autre aspect où le naturalisme de Lévi-Strauss me paraît en avance, par exemple, sur une conception comme la mémétique de Dawkins, sur l'idée de ces modèles biologiques appliqués à la culture, c'est que dans ces modèles biologiques, au fond, on dit la culture est faite d'éléments qui se répliquent, se reproduisent les uns les autres, et les réplicateurs qui ont le plus de succès reproductifs vont l'emporter. On a une espèce de compétition entre ces éléments de culture, semblable à la compétition entre gènes au niveau biologique. Et il ne s'agit que de réplication. Or, Lévi-Strauss, et c'est une originalité de son structuralisme, aussi bien par rapport au structuralisme linguistique et au structuralisme de Dumézil dans le traitement de la mythologie, insiste sur le fait que dans les rapports de filiation, ces rapports ne sont pas simplement des rapports de copie, ce n'est pas seulement des rapports d'identité, ce sont des transformations. L'ordinaire, c'est la transformation, et au fond, s'il n'y a pas de transformation, c'est la transformation zéro. Et c'est vrai, d'une part, dans la façon dont un mythe particulier va se transformer en passant dans une population voisine où il y aura une espèce d'écart qui peut être conscient et délibéré et qui va distinguer précisément nos mythes des vôtres. Mais c'est vrai aussi dans les micro-épisodes de transmission où chaque narrateur qui a été d'abord qui a écouté les mythes, qui les a entendus, qui les a intériorisés, qui les reformule, en les reformulant, les transforme. Il y a comme un autre point essentiel, je pense, dans l'œuvre de Lévi-Strauss, pour quiconque veut développer une conception épidémiologique ou populationniste, etc., de la culture, il n'y a que des versions, il n'y a que des variantes. La réalité d'un mythe, ce n'est pas l'objet abstrait, c'est l'ensemble de ces versions. C'est un point sur lequel Lévi-Strauss insistait, qui me paraît d'une modernité extrême. Et donc, on trouve chez Lévi-Strauss cette conception que l'enchaînement causal des formes culturelles n'est pas simplement où ça se copie ou ça se copie pas, et dans ce cas-là, c'est de la mutation au hasard ou une perte d'information. Non, en général, ça se transforme, et il faut comprendre pourquoi c'est un ensemble de ces transformations néanmoins tendent à converger autour de certains types qui sont récurrents. Donc, d'une certaine façon, dans cette conception naturaliste où on essaie de prendre au sérieux la référence que Lévi-Strauss fait à la nature humaine, de prendre au sérieux sa référence à l'esprit humain, son intérêt pour les mécanismes de la pensée, son idée que l'étude des phénomènes culturels est une manière fondamentale de comprendre les mécanismes de la pensée, on est amené à voir dans Lévi-Strauss, au fond, un père fondateur d'une discipline qui a été, d'une certaine façon, préemptée, dont le nom a été préempté par d'autres, qui est l'anthropologie cognitive. C'est l'anthropologie cognitive est un label qui est plutôt appliqué à une école américaine, Roy Dandrade, qui en est un fondateur, a écrit une petite histoire de l'anthropologie cognitive où Lévi-Strauss, je crois, est mentionné une ou deux fois, et qui est l'histoire d'un mouvement américain de collègues s'étant fréquentés et en discuté entre eux. D'ailleurs, une histoire d'un mouvement très intéressant dont les travaux étaient discutés régulièrement dans le séminaire de Lévi-Strauss, mais qui s'est taillé, au fond, un petit domaine intéressant aux frontières de la psychologie et de l'anthropologie et qui s'est écarté de ses grandes ambitions de fournir une espèce de conception globale de la culture qui était les siennes au début. L'anthropologie cognitive de Lévi-Strauss, d'une certaine façon, mérite mieux ce nom. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre précisément le rapport entre la culture et la société sous tous leurs aspects, pas seulement sur les catégorisations, etc., qui sont les choses qui intéressent l'anthropologie cognitive américaine, comprendre ces phénomènes à la fois comme phénomènes sociaux et comme phénomènes mentaux et cognitifs. Donc si on pense à l'histoire des sciences cognitives, dont Lévi-Strauss ne s'est jamais déclaré un acteur, je pense qu'en même temps, il y appartient de façon fondamentale, et d'ailleurs Howard Gardner, dans la première histoire de la révolution cognitive, à juste titre, consacrait autant de place à Lévi-Strauss et à son œuvre qu'à l'anthropologie cognitive américaine. Pour terminer, je reviens sur la citation de départ et je vais utiliser la métaphore de Lévi-Strauss un peu différemment. Il disait, il y a 10 ans, donc, « J'ai le sentiment d'être comme un hologramme brisé. Cet hologramme ne possède plus son unité entière et cependant, comme dans tout hologramme, chaque partie restante conserve une image et une représentation complète du tout. » Je voudrais reprendre un peu différemment la métaphore de l'hologramme. Au fond, une œuvre importante par sa richesse, sa diversité, sa taille, etc., comme l'œuvre de Lévi-Strauss, n'est jamais lue, commentée, utilisée que de façon fragmentaire. Les plus Lévi-Straussiens parmi nous ne sont jamais que des utilisateurs de fragments de cette œuvre considérable. Mais en même temps, ce qui reste vrai, pas forcément de toute œuvre, mais de façon remarquable de l'œuvre de Lévi-Strauss, c'est que comme dans un fragment d'hologramme, chaque partie de cette œuvre, d'une certaine façon, comporte une image de l'ensemble. Et donc, en défendant ce qui peut paraître comme un aspect marginal, et encore une fois, j'insiste, ça c'est une erreur historique de penser que c'est marginal, à savoir le naturalisme de Lévi-Strauss et son cognitivisme, j'ai bien conscience de ne reprendre qu'un aspect, qu'un fragment de son œuvre, de me réclamer que de ce fragment-là. Mais en même temps, il me semble que ce faisant, dans ce fragment, se retrouve, comme dans un hologramme, l'ensemble de son ambition. Je vous remercie.